mon père, soucieux de l'avancement de nos études, nous conseilla de renoncer aux jeux inutiles. Il nous recommanda l'observation minutieuse des mœurs des insectes et de commencer par celle des fourmis, car il voyait en elles le modèle des bons citoyens. C'est pourquoi le lendemain matin, nous arrachâmes longuement les herbes et la bauque autour de l'entrée principale d'une belle fourmilière. Quand la place fut bien nette, dans un rayon d'au moins 2 mètres, je réussis à me glisser dans la cuisine pendant que ma mère et ma tante cueillaient des amandes derrière la maison. Là, je volai un grand verre de pétrole et quelques allumettes. Les fourmis, qui ne se doutaient de rien, allaient et venaient en double colonne, comme les dockers sur la passerelle d'un navire. Je m'assurai d'abord que personne ne pouvait nous voir. Puis je versai longuement le pétrole dans l'orifice principal. Un grand désordre agita la tête de la colonne et des dizaines de fourmis remontèrent du fond. Elles couraient çà et là éperdues et celles qui avaient une grosse tête ouvraient et refermaient leurs fortes mandibules en cherchant l'invisible ennemi. J'enfonçai alors dans le trou une mèche de papier. Paul réclama la gloire d'y mettre le feu, ce qu'il fit très correctement. Une flamme rouge et fumeuse s'éleva et nos études commencèrent. Par malheur, les fourmis se révélèrent trop aisément combustibles. Instantanément foudroyées par la chaleur, elles disparaissaient dans une étincelle. Ce petit feu d'artifice fut assez plaisant, mais bien court. De plus, après la sublimation des externes, nous attendîmes en vain la sortie des puissantes légions souterraines et l'explosion bruyante de l'arène sur laquelle j'avais compté. Mais rien ne parut. Il ne resta sous nos yeux qu'un petit entonnoir noirci par le feu, triste et solitaire comme le cratère d'un volcan éteint. Cependant, nous fûmes assez vite consolés de cet insuccès par la capture de 3 grands prégadios, c'est-à-dire de 3 mantes religieuses qui se promenaient toutes vertes sur les branches vertes d'une verveine. Beau sujet pour l'observation scientifique. Papa nous avait dit, avec une certaine joie laïque, que la mante dite religieuse était un animal féroce et sans pitié, qu'on pouvait la considérer comme le tigre des insectes et que l'étude de ses mœurs était des plus intéressantes. Je décidai donc de les étudier, c'est-à-dire que pour déclencher une bataille entre les 2 plus grosses, je les présentais de fort près l'une à l'autre, les griffes à l'avant. Nous pûmes alors continuer nos études par la constatation du fait que ces bestioles pouvaient vivre sans griffes, puis sans pattes et même sans une moitié de la tête. Au bout d'un quart d'heure de ce divertissement si gracieusement enfantin, l'un des champions n'était plus qu'un buste, qui, ayant dévoré la tête et le thorax de l'adversaire, s'attaquait sans se presser à la seconde moitié, qui remuait toujours un peu nerveusement. Paul, qui avait le cœur bon, alla voler le petit tube de ses cottines, colle même le fer, et prétendit recoller ensemble ces 2 moitiés pour en refaire un entier à qui nous aurions pu rendre solennellement sa liberté. Il ne put mener à bien cette opération généreuse, car le buste réussit à s'enfuir. Mais il nous restait dans un bocal le 3e tigre, je décidai de le confronter avec des fourmis, et cette heureuse idée nous permit de jouir d'un spectacle charmant. Renversant brusquement le bocal, j'appliquai son ouverture sur l'entrée principale d'une fourmilière en plein travail. Le tigre, étant plus long que le bocal n'était large, se tenait debout sur ses pattes de derrière et profitait de sa tête à pivot pour regarder de tous côtés avec une curiosité de touriste. Cependant, une mousse de fourmis sortit du tunnel et monta à l'assaut de ses pattes, si bien qu'il perdit son calme et se mit à danser tout en lançant ses 2 cisailles à droite et à gauche. Il ramenait à chaque geste une grappe de fourmis qu'il portait à ses mandibules, d'où elle retombait coupée en 2.